hold you down.
Bonjour, bonjour, vous écoutez The Journal.
Avec moi Mathilde au micro.
Moi Chloé au micro et Anna la technique.
Nous vous retrouvons pour une nouvelle édition de The Journal remplie de nouveautés.
Alors vous êtes prêts ? The Journal, c'est dans un instant.
Au sommaire.
Projet pour le LFB avec Barcelone Accueil, Jeunes et l'association Aura Donde.
Madame Lebas nous parle de son action pour la différence.
Interview de la compagnie Les Amis de Platon sur leur pièce de théâtre L'Apologie de Socrate.
Nous terminerons également par du théâtre avec la pièce À table, chez nous, on ne parle pas, par Edith Tillette, metteur en scène.
Commençons avec Barcelone Accueil et son action LFB.
Je ne sais pas si vous avez remarqué les affiches qui sont dans le couloir et au CDI.
En effet, l'association Barcelone Accueil Jeunes, représentée par deux élèves du LFB, Charlotte et Mathilde, s'est associée à l'association Aura Donde, créée par Gemma Curulez et Philippe Saman.
Aura Donde est une association qui aide les jeunes qui ont fait leur coming out et qui, hélas, leur famille ne l'accepte pas. Ils se retrouvent sans toit et complètement abandonnés.
Barcelone Accueil Jeunes a décidé avec l'aide du LFB de créer une cagnotte Litchi afin de récolter des fonds pour l'association.
Le montant est de minimum 2 euros, alors n'hésitez pas à participer. Nous avons interviewé Philippe Saman, Gemma Courouillès et Thomas Gravreau au sujet de leur action.
C'est parti!
Pouvez-vous pour commencer nous présenter votre association Aura Donde?
Aura Donde est une association qui aide les jeunes LGBTQIA+, qui sont rejetés de chez eux en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. On les accompagne à travers différentes missions. Il y a l'accompagnement émotionnel qui est très important. On fait aussi du coup de la médiation avec leurs proches. On les aide à se réinsérer dans la vie professionnelle et on leur trouve aussi des familles d'accueil pour leur proposer un foyer.
Comment vous est venue l'idée de monter cette association ?
Mon fils m'a parlé de l'association Les Réfugiés en France et qu'ils aident les jeunes LGBTI rejetés par leur famille et ils ont des apparts. Donc j'ai créé l'association Aura Donde avec des autres cofondateurs pour aider les jeunes de par leur entourage familial. Donc la raison, c'est aider les jeunes qui n'ont pas eu la chance de mon fils.
Comment faites-vous pour faire appel aux bénévoles ?
On essaye donc de profiter de tous les réseaux sociaux et tous les contacts qu'on a dans notre entourage. Parce que les bénévoles, c'est très important dans notre association, parce qu'on est tous de professionnels, on a notre métier et nos carrières. Nos profils sont tous complémentaires et on investit notre temps libre pour aider ces jeunes.
Quel financement avez-vous trouvé pour développer vos projets ?
Le problème des financements, comme toutes les associations, est un problème crucial, parce que sans budget, on a du mal à avancer. Aujourd'hui, les donations représentent les 100% de notre budget. Donc on est en contact avec d'entreprises, avec des groupes, des donateurs de manière plus généreuse. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le problème de développement de l'association est fondamentalement lié à un problème budgétaire. J'en profite pour vous remercier pour la visibilité que vous allez donner à Aura Donde auprès des élèves du lycée français et des professeurs de la direction du lycée français. C'est fondamental qu'on puisse à la fois être connu et répondre aux questions que vous êtes susceptibles de nous poser.
We're lovers, that is that. Vous venez d'écouter Heroes par David Bowie. Place à notre deuxième sujet, la différence.
Cet atelier, organisé par Madame Lebas, a pour but d'introduire l'avis des élèves touchés par la différence auprès des délégués de 5e. Comment font-ils ?
C'est au travers d'activités interactives que les élèves peuvent ressentir ce que vivent leurs camarades.
Le but est de faire connaître les différences aux autres élèves et permettre de rendre l'environnement des élèves 10 plus agréable.
Nous avons rencontré Madame Lebas, professeure de français, à l'origine de ce projet.
C'est parti !
Bonjour, qu'est-ce qu'un élève 10 et qu'est-ce que ça regroupe ?
Bonjour, un élève 10, c'est un élève qui rencontre des troubles et des troubles d'apprentissage. Il existe plusieurs troubles. Le trouble du langage, on regroupe les difficultés de dyslexie, ça concerne la difficulté sur la lecture, dysorthographie sur l'orthographe et dysphasie sur le langage, difficulté à parler. Ensuite, on a les troubles de la motricité du geste, donc c'est la dyspraxie et la dysphasie aussi. Et enfin, les troubles des fonctions exécutives, on a le trouble déficit de l'attention et aussi le trouble des fonctions exécutives. Donc ça regroupe en fait plusieurs types de difficultés. Et parfois, pour un même élève, il aura plusieurs difficultés, plusieurs troubles associés.
Comment peut-on repérer cette difficulté ?
Alors, les difficultés, elles se repèrent en général à l'école primaire avec des difficultés que rencontre l'élève forcément par rapport à une norme, c'est-à-dire des difficultés de lecture ou plus de lenteur. Alors, difficultés à rentrer dans la lecture, après des difficultés de concentration. Quand on voit que les apprentissages sont plus compliqués. Et on les repère en faisant des tests aussi, c'est-à-dire que c'est un spécialiste qui va réaliser des tests pour dire si oui ou non il y a un trouble, parce que ça peut ne pas être un trouble. Donc tout ça, c'est très encadré.
En quoi consiste cet atelier ?
Alors, l'atelier école inclusive, elle consiste à sensibiliser les élèves délégués de 5e sur ces questions-là pour qu'ils puissent mieux comprendre leurs camarades. Concrètement, ils vont être mis en situation de difficulté. Je vais donner un exemple. Par exemple, on va leur mettre sous les yeux un texte où le texte est écrit avec des changements de lettres pour qu'il soit difficilement compréhensible, et ce qui est la spécificité de certaines dyslexies. Donc, les élèves sont en situation de vivre ce que vit un élève 10, et du coup de mieux le comprendre. Et parce que ces élèves délégués peuvent se faire le relais auprès de leurs camarades quand il y a des soucis d'incompréhension sur ce qu'ils vivent. Voilà.
Comment le reste de la classe peut-il aider l'élève ?
Le reste de la classe peut l'aider, on le voit très très bien, avec beaucoup de bienveillance et de tolérance, déjà, de pas le juger, et puis lui apporter une aide quand il en a besoin, c'est-à-dire lui prêter son cours, de lui réexpliquer, d'être bienveillant quand il bouge beaucoup, ou parfois aussi de l'aider à se calmer.
Quels sont les moyens mis en place pour aider les élèves dans leur travail scolaire ?
Pour ces élèves qui sont repérés, ils ont ce qu'on appelle un protocole. Et donc, pour chacune des difficultés, on va mettre en place des aides par rapport à ce qui est fait en classe. Donc, je vous donne un exemple. Pour des élèves qui sont dyslexiques, on va proposer des dictées à trous. Donc, il y a tout un ensemble de points qui sont soit de points qu'on va accorder à ces élèves-là. Ça peut être un ordinateur, ça peut être moins d'exercices lors d'un contrôle. Par exemple, pour des élèves qui ont un déficit de l'attention, qui ont du mal à se concentrer. Donc, on leur donne la possibilité de faire la même chose, mais avec une aide.
Et finalement, existe-t-il des solutions et quelles sont-elles ?
Pour faire disparaître les troubles, il n'y en a pas. Il n'y a donc pas de solution miracle. Mais tout cet accompagnement permet en général aux élèves d'avancer et surtout de continuer à apprendre. C'est ça en fait le but, c'est de continuer à apprendre et de pouvoir s'orienter après, plus tard. Et puis la science avance, donc Il existe plein de choses qui n'existaient pas avant, telles que des ordinateurs avec des logiciels, mais aussi dernièrement, c'est assez récent, des lunettes pour permettre de lire, voilà, des aides comme ça pour compenser un trouble qui ne peut pas toujours disparaître. Et aussi des solutions, c'est souvent des élèves qui ont une aide à l'extérieur chez des spécialistes qui vont les aider à avancer, voilà, donc avec des séances d'orthophonie ou d'autres d'ergothérapie, etc., pour les aider à avancer et leur donner des moyens de travailler par rapport à leurs difficultés.
Merci beaucoup.
C'était Electric Love, interprété par Bourne's. Jeudi 17 février, les élèves de terminale de l'option théâtre et de HLP en première ont assisté à une représentation théâtrale.
En effet, la pièce s'appelait L'Apologie de Socrate, par la compagnie Les Amis de Platon.
La pièce durait 1h10, puis les élèves ont eu la chance de poser quelques questions pendant 50 minutes.
C'était incroyable parce que c'est un monologue qui représentait le procès de Socrate.
Voici les comédiens Gérard et Ruben au micro de ce journal.
C'est parti.
Donc vous êtes metteur en scène, comédien, et vous avez donné deux représentations au lycée le jeudi 17 février. Ben, j'espère que ça s'est bien passé.
Très bien, c'était très agréable.
Alors justement, un petit mot d'abord sur votre compagnie. Comment elle est née, cette compagnie ?
Alors la compagnie est née dans les années 80 à l'initiative d'une prof de philo qui s'appelait Marie-Ange Mathieu, qui était aussi passionnée de théâtre et qui a trouvé à travers les dialogues de Platon le moyen de mêler ses deux passions qui étaient le théâtre et la philo. Donc avec ses élèves, ils ont commencé à monter les dialogues. Souvent c'était des extraits au départ, puis finalement après ça c'est devenu des dialogues en entier. Et puis après, d'anciens élèves ont souhaité prolonger le travail au-delà de la terminale, donc des étudiants. Puis après ça a pris des proportions, voilà, maintenant on joue un peu partout en France, donc ça s'est fait très progressivement. Donc cette compagnie a pour vocation de présenter les dialogues de Platon à la scène.
Comment vous est venue l'envie de mettre en scène des textes philosophiques ?
Au départ, c'est à l'initiative de Marie-Ange Mathieu, c'est elle qui a eu cette envie-là. En revanche, elle a su communiquer tous les membres de l'équipe ce goût pour la philosophie de Platon, pour ses dialogues, parce que c'est en même temps intellectuellement très riche, mais c'est en même temps aussi parfois très amusant, très drôle. C'est quand même la plupart du temps Socrate qui est mis en scène. Donc Socrate qui était réputé pour son ironie, son côté espiègle et malin. Voilà, donc c'est, la philosophie, ça reste aussi quelque chose qui peut être très joyeux, très heureux à vivre. Et donc on a tous été un peu piqués par ce virus que Marie-Ange Mathieu nous a transmis. C'est nous qui avons pris le relais, mais on essaie toujours de le faire avec cette passion qu'elle avait. Et voilà l'échange. Voilà, c'est pour ça qu'on est heureux, encore une fois, d'être là aujourd'hui, parce qu'à travers ces représentations théâtrales, c'est un moyen d'échanger avec les enseignants qui ont la gentillesse de nous recevoir, et puis les élèves qui découvrent Platon par un autre éclairage. Ils ont l'éclairage des profs qui leur montre un peu, qui leur explique un peu ce qu'il y a derrière, et puis nous, on leur montre une version un peu plus fun, alors où il y a moins d'explications, puisque c'est le texte tel qu'il est, mais un peu plus amusante, un peu plus ludique en tout cas.
Un peu plus ludique, et quand c'est ludique, ça passe mieux.
Absolument.
Et quelles sont les difficultés rencontrées d'adapter un texte philosophique à la scène ? Ça va pas être facile quand même.
Bah, en fait, déjà, le problème de base, c'est la notion de grec. C'est-à-dire, même nous, on n'est pas hellénistes. D'ailleurs, on n'est pas parti du texte grec lui-même. Nous, on a travaillé à partir de différentes traductions et on a reconstruit une nouvelle traduction, entre guillemets, traduction-adaptation, qui se prête particulièrement à la scène. Donc, on reformule un peu les phrases pour qu'elles soient facilement lisibles. Enfin, voilà. Donc, on fait en sorte que ce soit un langage assez normal, enfin, assez simple. Voilà. Les idées peuvent parfois être subtiles, mais en fait, finalement, le langage utilisé est relativement simple. C'est un langage de la rue. Socrate, comme il dit, c'est quelqu'un qui s'exprimait sur l'agora, au milieu des gens. Donc, il n'y a pas de raison de penser que le langage doit être particulièrement difficile.
C'est déjà théâtral, non ?
En tout cas, Socrate, c'est un personnage très théâtral, avec vraiment un gros charisme, une grosse personnalité, beaucoup d'humour, cette envie d'aller rencontrer autour de lui ceux qui savent, en tout cas ceux qui prétendent savoir, enfin, donc aller rencontrer les gens, discuter, soumettre des problèmes, des questions, essayer d'y répondre parce que lui-même n'a pas les réponses. Donc voilà, on est effectivement dans quelque chose de très théâtral, très vivant. Voilà. Et puis très théâtral au sens dramatique du terme, c'est-à-dire qu'on a affaire à des personnages qui, au début, par exemple, du texte, cherchent quelque chose et évoluent au fur et à mesure grâce à l'échange. Ils évoluent vers, alors pas forcément vers un savoir, mais en tout cas, il y a des choses qu'ils pensaient, qu'ils ne penseront plus. Ils ont compris qu'il y avait des choses qui étaient des erreurs. Donc voilà, il y a une évolution. Puis il y a eu, face à Socrate, des personnages hauts en couleur, des personnages politiques, des sophistes, des jeunes qui sont parfois fougueux et qui ont besoin d'être guidés. Enfin, on a toute une galerie de personnages très intéressants.
Et Ruben, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience de théâtre par rapport au public scolaire et après au sein de cette compagnie ?
La première fois que j'ai dû, pour n'employer que ce mot, affronter un public scolaire, parce que c'est un petit peu le cas, c'était très étrange. J'étais assez proche en termes d'âge de ces lycéens-là. Donc je me sentais très proche. Et puis, en tant que jeune comédien, il y avait un réel problème de légitimité. Mais où Gérard a tout de suite su me mettre en confiance, à me faire prendre le plateau à bras le corps et me faire sentir à ma place sur scène, jouer ce dialogue-là, le faire entendre le mieux possible. Et puis, comme il disait, tout dépend du parti pris. Et puis, mais la direction de Gérard est telle que c'est vraiment vivant. On se sent un peu comme chez nous et on fait en sorte de créer un vrai lien avec le public. Ça a été contraignant au début. Ça m'a surpris. Je n'arrivais pas à faire la part des choses quand les élèves suivaient plus ou moins, quand on sentait que ça décrochait. Ouais, ça pouvait blesser quand on pouvait se dire qu'on faisait les choses plus ou moins bien. Aujourd'hui, avec le recul, non. Au contraire, ça m'a peut-être aidé de changer ma mentalité. J'ai une approche du plateau beaucoup plus saine et une vision de ces lycéens beaucoup plus bienveillante vis-à-vis d'eux. Et ils nous le rendent bien. Ça se passe de mieux en mieux aussi, parce que, comme on disait, la compagnie évolue. Je pense que le travail avance et on met tout en œuvre pour qu'ils aient de vraies, belles représentations professionnelles. Donc, je pense qu'il y a un échange qui se fait naturellement, que ce soit nous vis-à-vis d'eux ou d'eux vis-à-vis de nous. Donc, l'approche, maintenant, c'est très, très agréable. En tout cas, comme on fait ces représentations dans le cadre de cette compagnie pour les lycéens en grande majorité, c'est un peu le défi à relever tout le temps, mais on a une belle expérience aussi qui fait que l'approche est tranquille.
Et vous, Gérard ?
Même chose. Les premières fois où j'ai joué devant un public scolaire, on va dire, j'avais aussi pas loin de leur âge. Donc, c'était assez impressionnant. Et puis, très vite, quand même, le but du jeu, c'est de montrer qu'on a tout fait, on a tout préparé pour que ce soit un beau moment de théâtre. Donc, on a de beaux décors, on a de beaux costumes. On essaie de faire en sorte que ce soit un moment de fête. Si on a bien préparé ce moment de rencontre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et ça se passe toujours très, très bien maintenant. Et on a une très, très belle écoute. On est heureux quand ça réagit beaucoup aussi. Parce que, quand même, les textes qui sont proposés de Platon, ils sont faits pour que les gens les prennent quand même en pleine face, et qu'ils réagissent par rapport à ça, enfin, qu'ils soient concernés par ce qu'on dit. Voilà, c'est quand même aussi des dialogues qui parlent de ce que c'est qu'être un homme bien, qui vise l'excellence, qui cherche à parler de justice, d'amour, de liberté. Si on fait bien notre travail, tous ceux qui sont à l'écoute de ça, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ben, ils sont très concernés.
Là, si je peux me permettre, les bords de scène qu'on fait à la fin,
absolument.
Alors ils viennent qu'après la représentation, donc ils ne nous ont rencontrés qu'en tant que comédiens au premier abord, mais après, ça tisse des liens encore plus forts avec les lycéens. Ces échanges-là, ces discussions, le rapport est beaucoup plus humain, et donc ça permet aussi de casser les codes, de casser ce quatrième mur qui pouvait exister pendant une heure et quelques. Ils sont d'autant plus importants que c'est une vraie rencontre. On a des vraies rencontres avec des professeurs, avec des proviseurs et avec des élèves.
Des élèves qui sont soit en option théâtre ou en terminale, donc qui vont être lâchés dans la nature.
Mais parfois, on a aussi les premières, les secondes, ceux qui font du grec, du latin, enfin voilà.
Ouais.
Et puis, bon, voilà, surtout que maintenant, il y a de la philo aussi en première aussi. Donc, c'est des approches, comme je disais au début, assez ludiques. Donc, Ce qu'on espère aussi, c'est que ces textes sont tellement forts, l'aspect théâtre peut faire aussi qu'une représentation, on peut s'en souvenir longtemps aussi. C'est-à-dire que même 10, 20, 30 ans après, on peut encore avoir un souvenir d'une représentation où on a vécu quelque chose d'un peu intense. Le théâtre a ça de magique. Profitez de vos enseignants qui ont des choses à vous expliquer, à vous apprendre, parce que c'est du bagage pour la suite. Et c'est pendant ces années-là que vous allez pouvoir engranger des choses. On a failli passer, nous, à côté de la philo. Parce que nous, on était dans les terminales scientifiques, donc on n'avait qu'une heure ou deux. On n'y a pas consacré tout le temps, toute l'attention qu'on aurait pu y consacrer. Et bon, on a eu beaucoup de chance parce qu'après, on nous a demandé de jouer dans cette compagnie-là. Donc d'un seul coup, on a découvert tout un univers côté duquel on serait passé. Donc moi, je dis tous ces jeunes, profitez de tout ce que vous recueillir là, pendant ces années de lycée. Je sais qu'il y a des devoirs, il y a plein de trucs, c'est pas forcément évident, on a plein de préoccupations. Mais quand même, c'est le moment où on peut engranger plein de connaissances. Mais il faut en profiter parce que finalement, après, ça sera les hasards de la vie. Voilà.
Terminons avec Edith Hillette.
Il y a environ un mois, le lycée a accueilli le comédien et metteur en scène Edith Hillette.
Il est venu en cours d'option théâtre parler de son expérience dans le domaine théâtral.
Et pour présenter sa pièce, à table, chez nous, on ne parle pas.
Il a donné aux élèves des conseils sur comment évoluer sur le plateau.
Et leur a fait quelques exercices pour travailler leur pièce.
J'ai eu l'opportunité de lui poser quelques questions.
Écoutons-le.
Donc vous êtes acteur, auteur, metteur en scène et vous êtes à Barcelone pour jouer votre pièce « À table, chez nous, on ne parlait pas ». Pouvez-vous nous en dire un petit mot ?
C'est un projet qui est assez personnel. En fait, j'ai un papa qui a fait le service du travail obligatoire. Alors le service du travail obligatoire, c'est quelque chose qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'à un moment, les nazis n'avaient plus d'hommes. Tout le monde était à la guerre et donc ils ont demandé à ce que les Français qui étaient nés entre 1920 et 1923 partent en Allemagne pour travailler. Et quand ces gens-là sont revenus, ça a été un peu tabou. Bah, c'était pas de la collaboration, c'était pas de la résistance, donc du coup, il y en a beaucoup qui n'en ont pas parlé. Et je me suis intéressé à pourquoi ils n'en avaient pas parlé, pourquoi il y avait un tabou dans les familles françaises par rapport à des gamins qui étaient partis faire le service du travail obligatoire. Et derrière cette question très historique, il y a une question de la désobéissance à la loi et notamment à la loi des pères. Il faut savoir que Pétain, c'est le patriarcat carrément idéologique en fait. Au fur et à mesure d'une enquête, on a découvert qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'ils ont eu l'impression inconsciente d'avoir été sacrifiés. Qu'on les avait arrachés à leur vie, qui était celle de jeunes hommes, voilà, un peu inconscients, comme la jeunesse peut l'être, et qu'ils avaient été sacrifiés, et que donc un sacrifié, c'est quelqu'un qu'on tue, et que donc ça peut pas parler après, puisque c'est mort là-bas. Et à travers ça, on a vu que c'était un peu le même muscle que pour la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam. On avait une phrase un peu en tête, c'est que finalement un conflit, une guerre, ce sont des pères qui se mettent d'accord pour sacrifier leurs fils. Et ça, c'est une phrase d'un monsieur qui s'appelle Hérodote, donc il y a extrêmement longtemps, qui avait un peu parlé là-dessus. Voilà un peu le sujet.
Et qu'est-ce qui vous a emmené au théâtre ?
Alors moi, qu'est-ce qui m'a emmené au théâtre ? Je dirais que c'est une professeure de français qui faisait un atelier théâtre. J'y suis allé un peu pour des mauvaises raisons à cet atelier. Et en fait, quand j'y étais, j'ai eu une espèce de révélation où je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Alors, je ne le conscientisais pas encore. Je ne savais pas que c'était un métier. J'ai eu comme un choc, une révélation un peu peut-être mystique, je ne sais pas. Comme on dit qu'on a la foi ou voilà. Mais en tout cas, oui, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire.
Pouvez-vous nous dire un petit mot de l'atelier que vous avez mené avec les élèves de l'option théâtre ?
C'est un atelier qu'on a mené un peu en deux temps. On s'est rencontrés. Donc j'ai un peu parlé de mon parcours et puis j'ai essayé de répondre à leurs questions. Et puis ensuite, on a travaillé un peu un travail à la table, ce que nous on appelle un travail à la table, c'est-à-dire une première lecture du texte qu'ils sont en train de travailler, qui est un texte d'Éléonore Confino. Et donc on a fait un petit travail vraiment où on a lu et on a essayé de pas jouer encore des personnages, mais d'être vraiment dans le respect des points, des virgules, d'essayer de voir comment tout ça fonctionnait, comment les paroles passaient d'un personnage à l'autre.
Pourquoi est-il important de parler de théâtre aux jeunes ?
Enfin, c'est comme si les jeunes ne parlent pas au théâtre, le théâtre ne parle pas aux jeunes. Je pense qu'à un moment, chacun dans son parcours rencontre quelque chose, la bande dessinée, la musique, le sport, dans lequel il s'épanouit et dans lequel... Enfin, je sais pas, toi, par exemple, pourquoi tu es venu à l'atelier théâtre ?
Moi, je faisais des comédies musicales avant.
Et pourquoi tu faisais des comédies musicales avant ?
Je sais pas.
Pourquoi la comédie musicale, elle est venue vers toi?
Parce que j'aime bien parler.
D'accord.
Et donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Je me suis vraiment amusée la première année, donc j'ai continué.
Bah voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du plaisir. Voilà, on ne sait pas trop, est-ce que c'est parce que les parents osaient ou pas du tout, ou parce qu'on a envie d'être avec les autres. Je pense que c'est vraiment une chose qui, à un moment, tombe dessus, une passion. Tu prends une guitare, c'est chouette, ou voilà, comme un peu une histoire d'amour, ça te tombe sur le coin de la tête, tu t'y attends pas, et puis bah, tu fais avec, tu continues, t'arrêtes, voilà. Puis c'est des périodes aussi. On peut faire du théâtre à un moment, puis en faire, puis en refaire, voilà. C'est toute la vie, c'est ça qui est chouette.
C'est la fin de notre émission.
On se retrouve dans un mois pour une nouvelle édition de The Journal.
D'ici là, retrouvez-nous sur notre site
www.radiolfb.net.
Sur ce site, vous pourrez nous écouter, vous abonner et laisser des commentaires.
On se quitte avec le groupe Téléphone et leur single Un Autre Monde.
Ciao tout le monde.
Peace.